Aujourd'hui, dans Des sons d'écrits, on souhaitait vous lire un texte de Mathieu Rigouste qui s'appelle « Le bras armé des classes dominantes » qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Permis de tuer, chronique de l'impunité policière » qui est un livre collectif paru aux éditions Sileps et qui retrace les histoires des luttes des familles et des proches de victimes de violences de la police et de meurtres policiers. Voilà, Mathieu Rigouste, c'est un sociologue de la police. Et voilà le texte qu'il écrit en conclusion de ce livre. La police a toujours contrôlé et réprimé les classes populaires. Elle brutalise en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés, étrangers, étrangères, colonisés, esclaves, prostituées, indésirables. Dans les grandes villes des métropoles impérialistes, elle assure notamment la ségrégation aux abords des grands centres d'exploitation. Et pour remplir ses fonctions, la police récupère et adapte des méthodes issues de la guerre, de l'esclavage et du colonialisme. Il s'agit de bien comprendre que tous les États et toutes les sociétés égalitaires ont besoin de la police pour soumettre les peuples, mais qu'ils doivent aussi faire accepter cette violence. Ainsi, par la voix de leurs médias, de leurs intellectuels et de leurs partis politiques, les classes dominantes tentent de nous faire croire que le racisme et la brutalité, le harcèlement et les crimes policiers sont des exceptions, des bavures, des erreurs. Mais il s'agit en réalité d'un système organisé méthodiquement pour soumettre et punir les moins privilégiés, celles et ceux qui profitent le moins du système en place et qui auraient donc le plus intérêt à s'en débarrasser. Et ce système a besoin de nous faire croire que la police, c'était mieux avant, ou au contraire qu'elle sera de moins en moins violente, que la police de proximité serait une solution, que la police de gauche sera moins pire, qu'il faudrait en revenir à une police vraiment républicaine, etc., etc. En réalité, la police produit la violence dont le système a besoin. Elle est raciste, patriarcale et au service de la bourgeoisie depuis qu'elle existe, car elle est la police d'un système capitaliste impérialiste. La police, c'était pas mieux avant. La police moderne a été fondée en même temps que l'État-nation et le capitalisme. La monarchie absolue de Louis XIV avait créé, à la fin du XVIIe siècle, la lieutenance de police pour surveiller et encadrer l'échange des marchandises sur les marchés et contrôler les émeutes de la faim. Depuis son origine, la police est donc chargée de protéger le capitalisme et l'État, en tentant de soumettre le peuple par la violence. Et c'est sa raison d'être jusqu'à maintenant. Elle est le bras armé des classes dominantes pour écraser les résistances, les révoltes et les mouvements de libération des peuples. De nombreuses fois, elle a massacré avec l'armée celles et ceux qui luttaient pour leur émancipation. La révolution bourgeoise de 1789, celle de 1848, la Commune de Paris en 1871, ne sont que quelques criants exemples des massacres qu'elle est prête à opérer pour protéger les dominants, leur pouvoir et leurs privilèges. Au début du XXe siècle, à l'image du système qu'elle protège et qu'il a produit, la police est déjà raciste et brutale. Dans les années 1930, il existait officiellement une police décolonisée en métropole, la Brigade Nord-Africaine, BNA, recrutait une partie de son personnel parmi les administrateurs coloniaux et les fonctionnaires en poste en Algérie. Elle quadrillait les quartiers musulmans de Paris. Elle y menait des raids et des rafles, alimentait des fichiers de surveillance. La BNA mélangeait des méthodes coloniales et des méthodes depuis longtemps appliquées aux mendiants, aux sans-abri et aux prostituées. En 1945, après la fin de la guerre, la BNA fut dissoute par le gouvernement du général de Gaulle pour son caractère explicitement raciste, dans un contexte où les classes dominantes cherchaient à effacer leur passé collaborateur et la mise en place du régime nationaliste de Vichy. C'est d'ailleurs durant cette période que fut fondée la police nationale que nous connaissons aujourd'hui. Après avoir été chargée de surveiller et ficher les juifs et les communistes dans les années 30, la police française organisa leurs rafles et leurs déportations vers l'Allemagne nazie. Une importante partie de ces policiers fut d'ailleurs reclassée dans la police nationale après la guerre. Ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother. La police maintient la ségrégation. Après la Seconde Guerre mondiale, les capitalistes occidentaux continuèrent à exploiter les prolétariats européens et à surexploiter les travailleurs des colonies. Pour soumettre ces derniers, dès 1953, la préfecture de police de Paris reforma une unité de violence d'inspiration coloniale. La Brigade des Agressions et Violences, BAV, créée sur les anciennes BNA à peine dissoutes. C'est l'ancêtre des BAC. La BAV fut chargée de paralyser les résistances décolonisées, puis durant la guerre d'Algérie, les actions du FLN, comme s'il s'agissait d'une forme de criminalité ethno-culturelle. Constituée d'inspecteurs parlant l'arabe, dotée de voitures et de radios, elle était chargée de circuler dans les quartiers criminels pour y faire du flagrant délit. La ressemblance avec les polices anticriminalité qui sévissent dans les quartiers populaires d'aujourd'hui est frappante. La BAV intervenait principalement la nuit pour occuper le terrain ou pénétrer les milieux nord-africains, pour soumettre et bannir les damnés de la métropole. Elle se mit ensuite à conduire des enquêtes plus précisément liées à la lutte contre la politicisation révolutionnaire décolonisée et fut transformée en brigade antiterroriste, délaissant la délinquance de rue pour assumer clairement sa fonction de police politique décolonisée. Ses effectifs ne cessèrent de croître à mesure que la révolution algérienne se développait en métropole. De 1958 à 1962, les BAV, à l'instar d'autres services de police, faisaient systématiquement feu sur tous les Algériens qui leur semblaient menaçants, qui refusaient de se soumettre à une interpellation ou qui s'enfuyaient. Pour justifier l'oppression policière des travailleurs arabes à Paris et dépolitiser les luttes décolonisées, les grands médias et les classes dirigeantes de l'époque employaient systématiquement l'imaginaire de la criminalité nord-africaine. Dans cette même logique, aujourd'hui, la police anticriminalité assure l'écrasement politique des luttes populaires et de l'immigration en utilisant le fantasme de la délinquance des étrangers. Ciblées comme des bases importantes de recrutement et d'organisation pour la révolution algérienne, les bidonvilles décolonisés furent soumis à un système de coercion policière inspiré des techniques coloniales mises en œuvre en Algérie. Des forces supplétives, les harkis de Nanterre ou de Paris, recrutées spécialement à Alger pour aller mener la guerre en Algérie immigrée. Des unités de choc furent créées pour enfermer, harceler et soumettre les colonisés en métropole. Des spécialistes de la répression et de la guerre coloniale, particulièrement expérimentés dans la répression des Nord-Africains, furent chargés de les diriger. Parmi ces unités, certaines furent spécialement employées pour empêcher le développement de ces territoires difficiles à contrôler en détruisant les habitations. Appelées Brigade Z à Nanterre, Brigade des démolisseurs ou Brigade des casseurs, ailleurs, elles étaient formées pour intervenir par surprise et détruire les cabanes à coups de masse. Les policiers établissaient un relevé régulier des plans d'emplacement et numérotaient les baraques à la peinture sur la porte, comme cela avait été expérimenté par les parachutistes dans la Casbah d'Alger. Ils entraient sans prévenir en défonçant les portes, se servaient du café, jetaient les étals en l'air, piétinaient, puis déchiraient les affaires, les jetaient dans la boue. Parfois, avec un pétard à la main, ils s'amusaient à apeurer et disperser les familles. Il s'agissait de paralyser la vie sociale pour soumettre la subversion nord-africaine à Paris, comme l'expliquait le préfet de police Maurice Papon, architecte et gestionnaire de cette police. Le même Maurice Papon qui avait organisé la déportation des Juifs de Bordeaux pendant la collaboration entre la France nationaliste de Vichy et l'Allemagne nazie. Ces méthodes nous rappellent les perquisitions perpétrées régulièrement par la police des cités aujourd'hui, pénétrant par surprise à l'aube dans les appartements, en défonçant les portes, en renversant le mobilier et en brutalisant les habitants et habitantes sous prétexte de la lutte contre la criminalité. Comme aujourd'hui, il s'agissait déjà d'assurer la ségrégation, mais aussi de paralyser la vie des habitants et habitantes, de les contrôler, d'empêcher leur lutte, leur possibilité d'auto-organisation et toute forme de vie autonome. Les agents de ces brigades empilaient des tas de terre devant les habitations pour en interdire l'accès. Ils détruisaient les petits commerces et mettaient en place des grillages pour quadriller et trier les habitants et habitantes. Lorsque la guerre entra dans sa dernière phase, les bidonvilles furent soumis à une violence éradicatrice. Représailles sanglantes, incendies des habitations, rafles, tortures dans les caves d'immeubles et d'hôtels parisiens, assassinats, enlèvements et disparitions. La répression des bidonvilles était calquée sur les méthodes qui avaient permis de pacifier les villages des Aurès et les quartiers musulmans d'Alger. Cette violence d'État culmina lors de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, dont de nombreuses victimes étaient des habitants et habitantes des bidonvilles de la banlieue parisienne. Pour protester contre le couvre-feu raciste qui leur avait été imposé depuis fin septembre par le préfet de police Maurice Papon, plus de 20 000 Algériens et Algériennes de Paris et de sa banlieue marchèrent dans la capitale avec le FLN. La police mit en œuvre, sous la forme d'un plan de défense intérieure du territoire, dite, un condensé intensif des violences qu'elle faisait habituellement subir aux colonisés d'Algérie en métropole. Elle rafla et interna plus de 10 000 Algériens et Algériennes. Elle tabassa et tortura des centaines d'entre eux et elles, tandis qu'elle en tuait et faisait disparaître des dizaines d'autres. Ce massacre d'État a été rendu possible par l'organisation historique de la police des Nord-Africains en métropole, par des doctrines, des techniques, des pratiques et des personnels directement issus de la guerre coloniale qui ont été réemployés, techniquement et juridiquement. Ce massacre est le produit de procédures rationnelles et de protocoles de violence expérimentés en amont sur les corps décolonisés. Ce n'est pas non plus une bavure, mais c'est un crime fondateur de la Ve République. Ni les policiers ni les responsables politiques de ce massacre d'État n'ont été sanctionnés ni même inquiétés. Une loi d'amnistie a permis à la justice de couvrir l'ensemble des crimes policiers et militaires de la guerre d'Algérie. La police se transforme et s'adapte en gardant les mêmes fonctions. Les dirigeants policiers et politiques des années 1970 ont été formés dans les années 1950. À partir de 1958, tous les élèves des grandes écoles, Polytechnique, ENA, etc., étaient envoyés en stage en Algérie. Dans un rapport de décembre 1961, on notait que 490 membres des services actifs de la préfecture de police avaient servi en Indochine et que des dispositifs avaient été mis en place pour favoriser le recrutement des anciens combattants d'Algérie. Toute une génération de policiers entra en fonction après avoir été formés par et pour la guerre coloniale, à travers l'envoi d'un contingent en Algérie ou par le fait d'avoir été, comme policiers, chargés des populations suspectes, communistes et colonisées, en métropole. Cette génération formée à la ségrégation et au harcèlement des colonisés prit les manettes de la police, des quartiers populaires et de l'immigration dès sa fondation, au début des années 1970. C'est, par exemple, en majorité d'anciens éléments issus des BAV, formés et formatés par la guerre d'Algérie, que l'on confia la tâche de concevoir les brigades chargées d'encadrer les cités au début des années 1970, les premières DAC. Ces agents continuèrent à faire ce qu'ils savaient faire, opprimer les pauvres et les basanés, sous prétexte d'insécuriser les milieux délinquants. Le 29 novembre 1972, Mohamed Diab, un chauffeur de poids lourd algérien de 32 ans, est abattu par le policier Robert Marquet d'une rafale de policiers mitrailleurs à l'intérieur même du commissariat de Versailles. Entré dans la gendarmerie sous l'occupation, CRS pendant toute la guerre d'Algérie, Marquet est arrivé à la sûreté urbaine en 1960. L'affaire fut largement médiatisée et Mohamed Diab, décrit comme un forcené, mangeur de viande crue, jusqu'à ce qu'une contre-enquête révèle les mensonges des policiers. Le 24 juin 1973, des gendarmes de Fresnes, à la recherche d'un garçon algérien de 14 ans, embarquaient sa petite sœur, Malika Yazid, 8 ans, qui jouait dans la cité de transit de Grou, où elle habitait. L'un des gendarmes l'enferme avec elle pour mener un interrogatoire et lui soutirer des informations sur son frère. Malika en ressort dans le coma, puis meurt de ses blessures. Les commentateurs de l'époque qui dénoncèrent ces méthodes les comparaient à celles de la guerre d'Algérie. En avril 1978, Ali Touami, un Algérien, est arrêté à Gennevilliers par le brigadier Claude Fiancette, qui le frappe et lui fait perdre un œil. Fiancette est un ancien parachutiste d'Algérie, affecté à la BAC des Hauts-de-Seine. Il est copa de 3 ans de prison avec sursis en 1984. Parallèlement à la Seine-Saint-Denis, c'est dans l'agglomération lyonnaise que furent expérimentées dès 1971 les nouvelles polices urbaines et l'îlotage comme surveillance permanente, préventive et territorialisée de certains quartiers. La première révolte urbaine de l'ère sécuritaire s'y produit dès 1971 à Vaux-en-Velin, à la cité de la Grapinière, construite dans la périphérie lyonnaise pour accueillir dès 1962 des Français musulmans d'Algérie. À la fin de la décennie, c'est dans ce laboratoire de la ségrégation que surgiront les révoltes populaires. À partir de 1976, toute la cité Simignon, à Villeurbanne, fut quadrillée par la police et régulièrement fouillée de fond en comble. Ces blocages la transformèrent en véritable cité de regroupement à l'image des pratiques de contrôle du territoire mises en place en Algérie entre 1955 et 1962. Face à l'oppression policière, les affrontements se multiplièrent. Les médias et la classe politique locale développèrent la réputation exécrable de l'îlot Olivier de Serres pour permettre à la municipalité de Villeurbanne de justifier la destruction de ce vivier à délinquance, comme l'appellera le maire Charles Hernu. Les différentes barres de la cité Simignon furent démolies entre novembre 1978 et août 1984. Les habitants et habitantes les plus précaires furent déplacés à Vaux-en-Velin et Vénissieux. accentuant la ségrégation sociale, raciale et géographique dans la banlieue de Lyon. Mais à Vaux-en-Velin, dès septembre 1979, dans la cité de la Crapière, et en 1981 et 1982, au quartier des Minguettes à Vénizieux, de jeunes habitants-habitantes recommencèrent à affronter la police pour dénoncer sa violence, la misère et le racisme. L'articulation de l'oppression policière de la rénovation urbaine était déjà bien en place à cette époque. En plus d'assurer le contrôle des classes les plus populaires, la police participe à la ségrégation et à la destruction de leur quartier, de leur lutte et de leur forme de vie.
Si al cielo subí pudiera, llorona las estrellas te van. Si al cielo subí.
La police fait toujours face aux résistances et aux révoltes populaires. Les habitants et habitantes des quartiers populaires résistent constamment et inventent diverses formes de lutte et d'outils de résistance face à l'oppression policière. Une contre-culture des cités et de l'immigration ouvrière a ainsi émergé face au système de ségrégation. Elle a structuré les résistances associatives depuis le début des années 1980. L'agence Immédia, par exemple, a été fondée suite à la mort d'Abdelkader Lerache à Vitry-sur-Seine en 1980 pour porter des discours et des images autoproduites face aux mensonges des médias dominants. Les concerts Rock Against the Police, eux aussi autoproduits, ont accompagné l'émergence d'une mouvance associative des banlieues et de l'immigration. C'est sur ces bases qu'est créé le groupe de femmes issues de l'immigration Zahama de banlieue en 1981, puis le collectif Jeunes Arabes de Lyon et de banlieue 4 ans plus tard. En 1983 est fondée l'Association nationale des familles de victimes des crimes racistes et sécuritaires, plus connue comme les Folles de la Place Vendôme. Ce premier mouvement est consacré par l'arrivée de 100 000 marcheurs pour l'égalité et contre le racisme en octobre 1983 à Paris. Au début des années 1990, un second mouvement contre-culturel et associatif émerge. Une conscience de communauté opprimée ressurgit par les voies d'expression multiples, notamment le hip-hop. La génération née dans les années 1970-1980 a grandi en subissant fortement l'aggravation de la précarité et le système des discriminations, la ségrégation et le harcèlement. Elle semble avoir pris acte de l'inefficacité de certaines formes de mobilisation citoyenne ou du vote de gauche comme dans l'amélioration de ses conditions de vie. Les révoltes se sont multipliées lorsque cette génération est arrivée en âge d'être confrontée à la police dans la rue au début des années 1990. Le 6 octobre 1990, à Vaux-en-Velin, dans la cité du Mas du Taureau, une moto se renverse à un barrage de police. Thomas Claudio, le passager arrière, meurt. Des groupes de jeunes en colère affrontent la police pendant 3 jours dans plusieurs quartiers de la banlieue lyonnaise. Une manifestation d'habitants habitantes s'organise au cri de « police assassin ». Ces expériences de contre-attaque collective mettent la police en grande difficulté. Face à ce rapport de force, les grands médias parlent pour la première fois de guérilla urbaine et d'intifada des banlieues, permettant à l'État d'expérimenter immédiatement de nouvelles formes de répression. Le GIPN, groupe d'intervention spécialisé de la police, notamment chargé des opérations antiterroristes, est envoyé contre les révoltés. Mais les magasins dans le centre-ville sont tout de même dévastés. La rénovation de la ZUP de Vaux-en-Velin avait été entreprise en 1985 et faisait figure de modèle de la politique de la ville dans le cadre du projet Banlieue 89. Les émeutes de Vaux-en-Velin ont constitué le point de départ officiel d'une nouvelle phase de cette politique de la ville, désormais centrée sur la conquête, la domination, la destruction et la restructuration des cités, et des possibilités d'auto-organisation de leurs habitants-habitantes. Les résistances à la ségrégation policière ont pris différentes formes selon les possibilités des habitants-habitants. Surveiller les rondes policières depuis les fenêtres, alerter ceux et celles qui risquaient d'être contrôlés, laisser sa porte ouverte à ceux et celles qui fuient, s'opposer collectivement ou ne pas répondre à des provocations, lancer des projectiles depuis les étages, dénoncer la police sur les murs, lui tendre des pièges, la mépriser ou s'organiser dans des associations de quartier, des collectifs ou des comités autonomes. Les grands médias et la classe politique ont tout mis en œuvre pour faire passer ces résistances pour des tactiques mafieuses de trafiquants et de dealers.
R-E-S-P-E-C-T. Take half C-C.
police de proximité, c'est l'occupation permanente des quartiers. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, au début des années 1980, une nouvelle forme de police a été développée et présentée comme plus républicaine parce que plus proche du peuple. Elle s'est avérée aussi républicaine que les autres, en continuant à défendre la république capitaliste, raciste et patriarcale. Il est apparu que plus la police est proche du peuple géographiquement, plus elle tente de le diviser, de le paralyser et de soumettre ses formes de vie à l'autorité de l'État. Suite à l'expérimentation de ces dispositifs, en 1988, le ministère de l'Intérieur décide de développer l'îlotage sur le mode de la community police dans le monde anglophone. Aux États-Unis, dans les années 1960, cette méthode avait été employée pour quadriller les quartiers africains-américains par une présence visible et permanente. Il s'agissait de paralyser l'organisation des mouvements de lutte des Noirs américains, mais aussi toute la vie sociale des habitants et habitantes. Dans la seconde moitié du 19e siècle, un modèle londonien avait déjà été appliqué dans le Paris populaire pour bannir apaches et communards. Présentée comme moins brutale et de proximité, cette police, prétendument de gauche, mais conduite aussi par les gouvernements de droite, sous d'autres paravent, généralise les dispositifs d'occupation territoriale et renforce encore la ségrégation. Le développement intensif des polices de proximité a réellement commencé en France dans les années 1990, notamment à Vaux-en-Velin, où elle a été expérimentée après la révolte d'octobre 90. Censées se présenter comme des solutions de prévention permettant de réduire la répression, ces dispositifs ont consisté à mettre en place des polices d'occupation permanente de la rue dans les quartiers populaires pour assurer une forme de paralysie sociale. Dans le même temps, l'écrasement des révoltes des quartiers populaires est devenu un combat politique crucial pour l'État et les classes dominantes. La section violence urbaine des renseignements généraux fut créée en 1991, quelques jours après que Youssouf Raïd a été tué par le policier Pascal Iblot et après les révoltes du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Youssouf Raïd était un militant très impliqué dans les luttes des quartiers populaires et de l'immigration. Cette nouvelle section des RG devient l'un des piliers de la restructuration de la police politique contemporaine, en mettant au travail toute une partie de l'institution pour surveiller, traquer et soumettre les politisations autonomes des quartiers populaires. L'occupation policière des quartiers populaires connut un nouvel essor dans le courant des années 1990. Avec Charles Pasqua à l'intérieur, la chasse aux islamistes des cités permit de justifier le développement intensif d'unités de police de ségrégation et de harcèlement pour soumettre les classes populaires, l'immigration ouvrière et les mouvements sociaux. Le 6 juin 1997, la gauche reprend le ministère de l'Intérieur et nomme Jean-Pierre Chevènement. Il avait commencé sa carrière comme chef de cabinet du préfet d'Oran en Algérie pour finir ministre des armées à la fin des années 1980. Dès son arrivée, il crée 35 000 emplois jeunes dans la police pour renforcer nos moyens sur la voie publique, dans les quartiers, où les effets du chômage, de la désespérance et de l'affaissement du contrat social s'appellent incivilité, délinquance, drogue. Ces forces de gauche ont permis d'occuper massivement les rues pour un coût réduit, en employant une fraction plus importante des classes populaires au contrôle des quartiers sur le mode de l'occupation coloniale. Le ministère de l'Intérieur assurait qu'il n'y avait plus sur notre territoire de cités interdites. Yves Bertrand, le directeur général des renseignements généraux, en appela alors publiquement à la reconquête citoyenne des quartiers. Dans les pas de ses prédécesseurs, le ministère de l'Intérieur fixa comme objectif la suppression des zones de non-droit par l'envahissement policier. Les politiques de gauche comme de droite se sont passés le relais de l'écrasement policier des classes populaires. La violence policière est produite par la collaboration de tous les gouvernements. Sur le terrain des violences policières, les techniques d'occupation et les techniques de choc se mêlent sous tous les gouvernements qui se succèdent. Ce phénomène est particulièrement visible dans le nouveau millénaire et les alternances successives des gouvernements de droite et de gauche. Les UTEQ, mises en place par la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie et les BST par son successeur Brice Hortefeux, avaient bien, sans le dire, rétabli le principe de police de proximité, l'occupation permanente et le quadrillage constant des quartiers populaires. Les dispositifs de prévention ne sont en réalité jamais dissociés des dispositifs de répression. Ils ne se remplacent pas, mais ont tendance à s'additionner, comme les armes des policiers. Alors que la gauche de gouvernement se concentre sur la fabrication d'une police d'occupation et sur l'augmentation des effectifs de police en tant que service public, la droite a plutôt tendance à étendre et intensifier les polices de choc en favorisant le développement des technologies, la place du secteur privé et la productivité policière. L'articulation de ces deux techniques policières et le relais des fractions de gauche et de droite aux commandes de l'État construisent une mécanique de tension, des dispositifs de paralysie et de brutalisation simultanée, un schéma typiquement contre-insurrectionnel. On retrouve cette mécanique d'étouffement et de chasse à l'homme, d'enfermement et d'agression dans la plupart des dispositifs policiers qui ont abouti à la mort d'un habitant des quartiers populaires, ou donné lieu à des révoltes depuis la fin des années 1990. Damary Lélis, 1997, Clichy-sous-Bois, 2005, Villiers-le-Bel, 2007, Grenoble, 2010, Amiens, 2012, etc., etc. Et la justice joue un rôle fondamental dans cette mécanique de domination parce qu'elle est chargée de couvrir les policiers et de punir les révoltés. La justice fait son travail en couvrant la police. L'institution judiciaire assure l'impunité et donc la continuité de la violence policière. En couvrant les morts et les mutilations par des classements sans suite, sans même de procès, des non-lieux ou encore des peines avec sursis, les rares fois où un procès est mis en scène, elle poursuit aussi régulièrement celles et ceux qui dénoncent et combattent la violence policière. Ce ne sont pas non plus des erreurs, des bavures, ni des manquements de la justice. C'est sa fonction. La justice est aux ordres de l'État et applique les lois de la classe dominante. Des lois faites par elle et pour elle. La justice est faite pour maintenir le peuple en chaîne et une partie des pauvres en prison. La liste est longue des personnes tuées par la police, d'une balle dans le dos ou dans la nuque, que la justice a couvert chaque fois où la légitime défense semblait injustifiable. Le 29 mai 1980, une ordonnance de non-lieu est prononcée par la chambre d'accusation pour protéger le policier Robert Marquet qui a tué Mohamed Diab d'une rafale de pistolet mitrailleur le 30 décembre 1972. Confirmée par la cour de cassation, une telle décision protège, autorise et suscite les pulsions morbides des policiers. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1982, à Paris, trois policiers de l'unité mobile de sécurité de nuit tirent 14 balles sur les quatre occupants d'une voiture, tuent l'un d'entre eux et blessent grièvement les trois autres. Le ministère de l'Intérieur socialiste Gaston Defferre décida de couvrir les policiers qui restèrent libres et furent seulement mutés de service. Ils bénéficieront d'un non-lieu 5 ans plus tard, en 1987. Le 6 mars 1986, à Villeurbanne, les deux gendarmes qui avaient tué Mustapha Kassir, 22 ans, d'une balle dans le dos, furent inculpés mais laissés en liberté avant de bénéficier d'un non-lieu. En 1991, à Mantes-la-Jolie, Saïdi Lajdi tua accidentellement la policière Marie-Christine Bayet et copa de 10 ans de prison ferme. Le même soir de juin, au Val-Fouré, Youssef Raïd a été tué d'une balle dans la nuque par le policier Pascal Iblot. 10 ans après, le policier sera acquitté. Le tribunal correctionnel de Valence relaxa en 1997 le gendarme qui a tué d'une balle dans la tête Franck Moret, 29 ans, le 25 juillet 1993. En 2001, le policier qui tua en décembre 1997 Abdelkader Bouzaïne, 16 ans, d'une balle dans la nuque dans la forêt de Fontainebleau, près de Damary Lélis, bénéficiera d'un non-lieu. La justice a prononcé 3 ans de sursis contre le policier qui a tué Habib, dit Pipo, le 13 décembre 1998 à Toulouse. 3 ans de sursis aussi pour le policier de Lille qui avait tué en avril 2000 Riyad Amlaoui, 23 ans, d'une balle dans la nuque à bout portant. En janvier 2009, la cour d'appel de Colmar a condamné à 8 mois avec sursis le gendarme qui a tué en mars 2004 Hassan Jarbiri, 33 ans, d'une balle dans la tête à Strasbourg. On pourrait citer beaucoup d'autres cas. Les policiers qui ont tué Lamine Dieng à Paris, dans un fourgon de police en juin 2007, furent entendus comme témoins assistés, ce qui est loin d'être une mise en examen. Non-lieu en décembre 2012 pour les policiers qui ont tué Ali Ziri, ce retraité décédé à la suite d'une suffocation provoquée lors de son interpellation par la police à Argenteuil. Non-lieu en décembre 2012 pour les policiers qui ont tué Mohamed Boukhourou dans un fourgon à Valentigney en 2009. Non-lieu encore en octobre 2012 pour ceux qui ont tué Mamadou Marega, décédé après avoir été gazé et tasé 17 fois à Colombes en 2010. Enfin, non-lieu en septembre 2012 dans le cas d'Abou Bakari Tandia, tombé dans le coma pendant sa garde à vue en fin 2004 à Courbevoie. La cour d'appel de Versailles a confirmé 3 de ces ordonnances de non-lieu. Il n'existe pas de statistiques officielles d'État, mais on recense environ un tiers des affaires classées sans suite. 1 sur 6 débouche sur un non-lieu, 1 sur 10 sur des relaxes, c'est-à-dire que plus de la moitié des affaires de crimes policiers bénéficient d'une forme d'impunité complète. Près de 40% des affaires entraînent des peines avec sursis pour les policiers auteurs des violences, et on relève moins de 5% de condamnations à de la prison ferme. Tuer des pauvres en général, et des moins blancs en particulier, est pour la police, couvert par une jurisprudence, de fait renforcée à chaque fois que la justice classe ses affaires, prononce des non-lieux ou délivre des peines délictuelles et du sursis. Tuer les habitants et habitantes des quartiers populaires relève au maximum d'un délit, et non d'un crime. L'État avoue ainsi qu'il ne les considère pas comme des humains à part entière. L'auto-organisation et la lutte paient. Face à cette impunité qui autorise les policiers à continuer à déverser leur violence sans limite, seule l'auto-organisation et la lutte qui ont parfois permis de faire plier la justice. Le 5 décembre 1986 à Pantin, l'inspecteur Savray, qui avait tué Abdel Benyaya, 20 ans, dans un café, fut inculpé d'homicide involontaire et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Ses proches et des militants militantes constituèrent le collectif Justice pour Abdel à la cité des 4000 à la Courneuve où habitait la famille Benyaya. En persistant, le comité a réussi à faire requalifier le crime en homicide volontaire et à faire incarcérer Savray. Le procès fut envoyé aux assises en novembre 88, où il écopa de 7 ans de réclusion. Il faut sans doute préciser que si cette condamnation a été rendue possible par le combat de la famille, elle est également due au fait que Savray n'était pas en service et ivre. Il fut facile pour la police, par le biais de la justice, de faire condamner un policier isolé son comportement déviant relevant de sa vie privée. Pour Youssef Raï, tué d'une balle dans la nuque par le policier Iblot, au Val-Fouré, la famille, le MIB et le collectif de soutien justice pour Youssef ont dû lutter avec acharnement durant 10 années de parodie judiciaire sans jamais céder pour empêcher le non-lieu. Ils ont réussi à traîner Iblot aux assises en septembre 2001. La justice restant pourtant la protectrice et la continuatrice de la police, Iblot a finalement été acquitté. Sans la lutte du comité Vérité et Justice pour Jamal, retrouvé mort au mitard dans la maison d'arrêt de Nanterre en octobre 2011, l'affaire n'aurait jamais eu aucun écho et aurait été classée en suicide, comme l'avaient prévu les surveillants pénitentiaires. Malgré les interdictions municipales et les déploiements policiers à chacune de ces réunions d'information et rassemblements, le comité a réussi à briser le silence en imposant publiquement la version des proches et de la famille, la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Face aux mobilisations du comité Vérité et Justice pour Ali Ziri, une enquête a été ouverte. Grâce à ces déterminations, le non-lieu a été annulé par la Cour de cassation en février 2014. Prises dans leur ensemble, toutes ces morts paraissent bien comme des crimes d'État, commis rationnellement et techniquement par la police et protégés par la justice. L'État, avec sa police et sa justice, tue méthodiquement et rationnellement une partie des classes qu'il doit ségréguer et soumettre à la plus forte exploitation. Et lorsque ces luttes parviennent à arracher des victoires, l'État ne se laisse pas faire pour autant. Les policiers grognent généralement par la voix de leur syndicat auprès du ministère de l'Intérieur, qui porte plainte contre les résistances populaires pour amadouer ces chiens de garde. La police distribue la férocité des classes dominantes. Avec l'aide de la justice, elle remplit les prisons en y enfermant et en y surexploitant les plus pauvres et les moins blancs. Elle participe, sous les ordres des autorités locales et des gouvernements, à la destruction de nos quartiers, de nos communautés et de nos vies au profit de ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent. La police mène sur le territoire national le volet intérieur des nouvelles guerres impériales contre les peuples en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc. Elle attaque les mouvements sociaux, les mouvements révolutionnaires et tout ce qui résiste au système de domination. La police est le bras armé de la guerre sociale contre le peuple. Ne nous y trompons pas, il y aura des mutilés et des tués tant qu'il y aura la police et la justice, c'est-à-dire tant qu'il y aura l'État et le capitalisme. Face à cela, l'émancipation des opprimés ne peut être l'œuvre que des opprimés, elles et eux-mêmes. Auto-organisons-nous, construisons des solidarités sans faille entre nos luttes, et n'en doutons pas, l'alliance des combats contre toutes les formes de domination détermine la condition de nos libérations respectives. They call fair.
So let's burn, burn the prison down. Burn, burn the prison down. Let's tear apart the walls.
C'est donc un texte de Mathieu Rigouste, paru dans « Permis de tuer, chronique de l'impunité policière » aux éditions Sileps. C'est un livre qui est paru en 2014, qui se voulait un livre collectif qui retrace les luttes des comités et des collectifs qui se sont constitués autour de meurtres commis par des policiers. Voilà, je vous conseille ce livre qui est absolument extraordinaire et je vous conseille de lire d'autres textes de Mathieu Rigouste, du coup sociologue spécialisé dans la sociologie de la police.
Tear apart the walls that keep us from each other.